carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Nous sommes à la Fondation Saint-Gerre-Polignac, avenue Georges Mandel à Paris, en compagnie de Marie-Odile Andrade. Et nous allons nous plonger dans la vie de Winarita Saint-Gerre, connue également sous le nom de la princesse Edmond de Polignac. La princesse compte parmi les plus importants mécènes européens de la fin du XIXe siècle et dès la première moitié du XXe siècle. Elle a beaucoup œuvré pour la musique. Alors, nous allons en parler aujourd'hui. Merci Marie-Odile de nous recevoir. Pourriez-vous, dans un premier temps, nous faire découvrir cette figure emblématique, peut-être par le portrait qui se situe donc au sein de la fondation?
Alors, ce portrait qui est donné avec erreur comme un autoportrait de Winarita est celui de sa sœur Isabelle Blanche. Et il est donc situé dans l'escalier. C'est lui qui nous accueille, somme toute, quand on rentre dans la fondation. Et il faut remarquer que cet escalier est assez exceptionnel parce qu'il a une ouverture zénitale tout à fait remarquable, avec une belle lumière, et le chiffre des Saint-Gerre-Polignac sur la rampe. Le portrait représente donc la jeune sœur de Winarita dans l'embrasure d'une porte, et il n'est pas sans rappeler une certaine facture impressionniste ou de Marie Cassatt, à la fois par la peinture sur le motif et dehors, et la lumière très douce qui baigne le personnage.
À travers ce portrait, peut-on évoquer la figure emblématique de Winarita? Qui était Winarita? Qu'a-t-elle fait pour la musique et les arts?
Alors, Winarita est née aux États-Unis. Elle a passé les petites années de son enfance en Angleterre. Et puis, après la mort prématurée de son père, elle est revenue à Paris avec sa mère et ses 5 frères et sœurs. Et elle s'est révélée très vite, très douée à la fois pour la musique et pour la peinture. Mais vous savez qu'à cette époque, on choisit de diriger les jeunes filles vers un certain domaine. Et donc, on l'a dirigée plutôt vers la peinture, malheureusement pour elle peut-être. Et on l'a envoyée dans l'atelier de Félix Parias, où elle fait des études de peinture. Notons au passage que Félix Parias occupe l'atelier qui était celui de Manet, et que plus tard, Winarita fera acheter par un certain nombre de souscripteurs le fameux tableau Olympia de Manet pour l'offrir au Louvre. Donc elle fait des études de peinture et de musique, et elle devient un très bon peintre, comme vous pourrez le voir, et une excellente musicienne, aussi bien pianiste qu'organiste.
Pourriez-vous nous parler de la fondation et nous faire partager ce lieu qui est absolument splendide?
Alors, cet hôtel est en fait son deuxième hôtel particulier, puisque le premier, elle l'achète en 1877, quand elle est majeure. C'est un hôtel qui est plus petit, qu'elle habite tout de suite, bien sûr, avec des dépendances, un jardin et ce fameux chalet qui sera tout de suite son atelier de musique et de peinture. Mais l'hôtel où nous sommes aujourd'hui, elle l'a fait reconstruire en 1904, donc 3 ans après la mort de son second mari, le prince Edmond de Polignac. Et elle a voulu consacrer cet espace à ce qui serait des réceptions, et essentiellement des réceptions de musique. Ce qui vous explique que vous allez voir que les pièces sont toutes dévolues à la musique et à la réception de ses invités.
Pourriez-vous nous dire un petit mot sur l'entrée de l'hôtel et l'ouverture accordée aux anglo-saxons? Enfin, vous me parliez tout à l'heure du porche.
Oui, alors n'oublions pas qu'elle est anglo-saxonne, qu'elle va garder à l'esprit souvent la notion de confort alliée à celui de l'esthétique, et que, suivant d'ailleurs une coutume très répandue à l'époque et venant d'Angleterre, elle a fait ouvrir 2 portes dans cette entrée, de telle sorte que les voitures à cheval puissent rentrer d'un côté, sortir de l'autre, et les gens sortir donc à l'abri des intempéries.
Pour revenir aux artistes connus qui ont entouré Winarita, pourriez-vous nous en dire un mot? Bon, beaucoup de musiciens, certains académiciens?
Beaucoup de musiciens, beaucoup de refusés de l'Académie des Beaux-Arts, il faut le dire, mais aussi des gens naturellement, beaucoup de gens du Collège de France en revanche, qui étaient proches de son cercle d'amis. Les premiers musiciens qui viennent, ce sont Ernest Chausson, Vincent d'Indy, Gabriel Fauré, plus tard ce sera Ravel, Manuel de Falla, encore plus tard Stravinsky bien sûr, Poulenc qui a été été son grand ami. Je crois qu'on peut dire qu'aucun grand musicien de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle n'est pas venu dans ses salons pour y composer, pour y créer, pour y jouer ensemble. Et il ne faut pas oublier qu'elle-même, quelquefois, se mettait au piano ou à l'orgue pour les accompagner. Alors, dans un premier temps, les concerts se sont tenus dans l'atelier de musique, que nous verrons tout à l'heure. Puis, quand elle a fait construire cet hôtel en 1904, les grands concerts se tenaient dans le grand salon de musique qui est très beau et assez sophistiqué. Et les petites réunions musicales, comme elle se plaisait à les appeler, se tenaient dans l'atelier pour lequel les musiciens avaient une certaine prédilection parce qu'il était peut-être justement un petit peu moins sophistiqué et un petit peu plus chaleureux et amical.
Pourriez-vous nous dire, Marie-Odile, où nous nous situons ?
Alors, nous voilà dans le cœur de la maison, qui est le salon de musique. Vous remarquez tout de suite qu'il est entièrement habillé de glace, que les volets roulants intérieurs sont en miroir également, donc permettent de fermer les fenêtres, de faire l'obscurité. C'est une très grande pièce qui fait près de 20 mètres de long sur 10 mètres de large, avec un beau plafond, avec un ciel peint tout à fait dans la manière de Versailles. Et c'est d'ailleurs une pièce qui est un peu inspirée de la Galerie des Glaces à Versailles. Nous avons une décoration de faux marbre dans des tons de noir, des médaillons qui représentent les principaux instruments de musique en stuc doré. Et puis, dans les voussures du plafond et les angles de ce plafond, de très belles et très exceptionnelles peintures de José María Sert, qui sont les dernières peintures qui sont en place aujourd'hui à Paris. Vous savez peut-être qu'il y a la salle de bal de l'hôtel de Vindel qui a été installée au musée Carnavalet, qui est dans des tons très beaux, argentés, alors qu'ici nous sommes plutôt dans des tons dorés et noirs. Ces peintures représentent le cortège d'Apollon, avec en tête Apollon, les rayons du soleil derrière son visage et la lyre dans la main, et tout autour de lui, un cortège assez librement inspiré de la représentation des muses.
Ce salon a vu beaucoup de grands musiciens. De quelle façon vivaient-ils à l'époque ? Est-ce qu'ils venaient régulièrement sur combien de fois par mois, par semaine ? Comment vivait ce salon à l'époque ?
Il y avait des concerts très régulièrement, probablement plusieurs fois par mois selon les saisons. Et Vinaretta, en fait, passait le plus clair de son temps à convoquer des musiciens dans son salon, à parler avec eux, à leur commander une œuvre qui lui serait évidemment dédiée, à proposer de créer des œuvres dans son salon avant qu'elles soient données dans des salles publiques comme Pleyel ou le Théâtre des Champs-Élysées. Et elle était très proche des musiciens. Et nous avons la chance d'avoir une certaine collection de lettres entre elle et Stravinsky, Ravel, Faya, Satie, Fauré, Poulenc, Debussy, et je pourrais en citer encore beaucoup. Disons que l'essentiel de sa vie, c'était vraiment de s'occuper des musiciens, de leur tendre une main secourable, parce que bien souvent, ils se trouvaient dans des difficultés financières énormes. Et elle a été toujours une amie présente, fidèle, et sur laquelle on pouvait compter.
Pour revenir à cette personnalité hors du commun, pour l'époque, une personne de ce rang ne faisait pas toujours la même chose. Donc elle avait vraiment une particularité, celle de mettre le beau au service de tous peut-être, d'essayer d'apporter autant que possible, de faire passer vraiment le bon goût avec l'argent, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque.
Il y a eu quand même beaucoup de salons de musique à cette époque-là, et notamment dans notre quartier ici, entre le Trocadéro et la Muette. Il y a eu beaucoup de mécènes aussi, on pourrait citer Chanel, qui a fait travailler des peintres, qui a elle aussi acheté des choses à José María Sert, qui a donné beaucoup d'argent au ballet russe, qui était une ennemie intime de Vinaretta, parce qu'elle ne s'aimait pas du tout. Mais il est vrai que Vinaretta a été très généreuse dans beaucoup de domaines. D'abord, elle a acheté un certain nombre de tableaux, notamment des tableaux de Monet. Elle a aidé un grand nombre d'écrivains à s'en sortir, et notamment elle a été très proche de quelqu'un comme Colette, c'est elle qui lui a permis d'acheter son fameux appartement de la rue du Beaujolais, et puis elle a aidé évidemment les musiciens, nous le disions, mais aussi un architecte comme Le Corbusier, puisque d'une manière assez paradoxale, elle habite un lieu extrêmement classique, qui est néo-18e, qui est néo-ballet italien, et elle donne à Le Corbusier, à l'architecte Le Corbusier, l'occasion de travailler en lui commandant des immeubles pour l'Armée du Salut et la fameuse péniche qui sera aussi à l'Armée du Salut. Donc elle était très éclectique. Elle a aussi aidé les scientifiques, j'oubliais, Pierre et Marie Curie, Édouard Branly. Donc vraiment un esprit très ouvert, un esprit d'avant-garde, un grand éclectisme et une sorte d'instinct extrêmement étonnant de la qualité. Je n'ai jamais trouvé trace qu'elle ait aidé quelqu'un de médiocre ou qu'elle ait eu un regret d'avoir accordé son soutien à quelqu'un, quel qu'il soit.
Pourriez-vous nous parler de cette salle à manger avec des symboles à Louis XIV ?
Oui, parce que cette salle à manger, qui est entièrement revêtue de marbre polychrome qui viennent de différentes régions, a été faite tout à fait à l'image du salon de la guerre à Versailles. Donc, on retrouve au-dessus des portes le chiffre de Louis XIV, ces deux L qui se font face, ce qui est un petit peu inattendu, mais qui doit être un hommage au monarque constructeur et artiste lui-même. Et puis, au-dessus de ce chiffre, nous avons les figures de Déméter et de Cérès avec les attributs de la vigne et des épis de blé. Et sur la console en marbre, la tête de Pan, puisque vous savez que c'est le dieu Pan qui préside à la destinée de cette maison.
Madame Andrade, nous sommes dans une pièce qui vit véritablement aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Il y a un beau piano au milieu.
Il y a un beau piano au milieu parce que cette pièce qui était l'atelier de musique de Vinaretta est redevenue l'atelier de musique de la Fondation, qui est aujourd'hui dévolue aux répétitions des artistes qui sont en résidence, c'est-à-dire qui viennent tous les jours répéter des concerts ici dans l'atelier. Ils sont dévolus à des concerts de parrainage proposés par des grandes figures comme Henri de Marquette, par exemple, présentant des musiciens plus jeunes, et puis à des conférences, causeries sur des grands personnages, écrivains, peintres, musiciens de l'époque de Vinaretta, et en racontant un petit peu quels étaient les liens entre eux. Donc on est vraiment très heureux que cette pièce ait retrouvé sa vocation première. Alors ce que vous voyez n'est pas tout à fait dans l'état où il était originellement, c'est-à-dire que vous voyez maintenant un faux plafond au-dessus duquel il y a un appartement destiné à la gouvernante et dame de compagnie de la princesse qui s'appelait Sonia Galperine. Mais autrefois, ce chalet avait un toit à deux pentes, une très grande hauteur sous plafond, et l'endroit en face de vous, vous voyez ces claires-voies, eh bien, il y avait une coursive qui faisait tout le tour de la pièce, et sur cette coursive était posé l'orgue de la princesse, qui était un orgue de Cavaillé-Coll. Tandis que sur le plancher où nous sommes, il y avait deux pianos, un piano à queue et un piano demi-queue, tous deux d'Estenway. Et c'est ici que venait faire la fête, parce que je crois que vraiment c'était cela dont il s'agissait, des gens comme Dindy, Chausson, Fauré. C'est ici qu'on a créé les tréteaux de Maître Pierre de Manuel de Falla. C'est ici qu'Isadora Duncan a dansé. Et bref, c'est un lieu, peut-être que vous le sentez, qui est extrêmement habité par tous les gens remarquables qui y sont venus et qui, je crois, y ont été très heureux de faire de la musique.
Nous venons d'entendre quelques notes d'un jeune musicien qui aujourd'hui a la chance de pouvoir investir ces lieux. Pourriez-vous nous parler justement de ce que fait la Fondation aujourd'hui et de son rôle dans la continuité de Winaretta ?
Winaretta avait voulu cette fondation pour qu'elle fût placée au plus haut niveau du savoir, et je mets des guillemets puisque c'est elle qui s'exprime ainsi. Elle n'avait pas de limite dans ses sujets d'intérêt, c'est-à-dire qu'elle a aidé aussi bien des professeurs du Collège de France, des chercheurs dans tous les domaines, y compris pour tout ce qui était études sous-marines, bathyscaphes. Il y a même eu un bateau à son nom ancré à Monte-Carlo. Elle a aidé la création du musée marin de Monte-Carlo. Elle a la première ou une des premières installé un téléphone sans fil avec l'aide d'Édouard Branly chez elle. Je vous le disais, elle a aidé Pierre et Marie Curie. Bref, il n'y avait pas de limite aux formes de mécénat dans lesquelles elle s'engageait. Et la Fondation a voulu garder cette vocation et ses intentions. C'est-à-dire que la Fondation donne des bourses à des chercheurs dans tous les domaines, que ce soit les arts et les lettres, les sciences ou la musique. La Fondation reçoit les musiciens en résidence ici, organise des concerts, reçoit des colloques pour lesquels elle aide la publication des actes, et nous avons ouvert assez récemment, enfin, notre site sur lequel nous nous efforçons de donner le maximum de renseignements possibles, mais aussi le maximum d'informations sur les choses qui se sont tenues ici, sur les discours qui ont été tenus souvent par de très grands esprits, avec l'idée de faciliter la vulgarisation de ce qui est la culture dans le sens le plus large du terme.
Si vous le voulez bien, Marie-Odile, pouvons-nous revenir sur le caractère, je dirais, avant-gardiste de Winaretta, un petit peu en avance sur son temps ? Pourriez-vous nous en parler un petit peu ?
En effet, je crois que tout en admirant son talent de peintre et de musicienne, en admirant son énergie intellectuelle, puisqu'elle apprend le grec à plus de 40 ans, elle fait la traduction des catalogues du Louvre du français en l'anglais, donc c'est une femme exceptionnellement douée. Je dois dire que ce qui me frappe le plus peut-être dans sa personnalité, c'est son avant-gardisme et c'est la sûreté de son jugement pour les débutants. Quand elle achète un tableau de Monet, quand elle aide Eric Satie, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, elle brave l'esprit bien-pensant, peut-être un peu conformiste de son temps, et elle voit déjà en eux le talent formidable qu'ils manifesteront toute leur vie. Et ce qui est très étonnant, c'est que l'âge ne lui enlève pas du tout cet enthousiasme, cette qualité de jugement et cet œil ouvert sur ce qui se fait aujourd'hui et ce qui va se faire demain, puisque même à la fin de sa vie, quand elle est âgée, quand elle est malade, quand elle est fatiguée, qu'elle est à Londres un peu plus isolée, eh bien, c'est encore In the Meat, c'est encore Benjamin Britten qu'elle aide, qu'elle écoute et avec lesquels finalement elle passe les derniers moments de sa vie et qui seront les musiciens formidables que l'on sait du lendemain de sa mort.
Merci beaucoup Marie-Odile Andrade pour cette visite et pour nous avoir donné l'opportunité de revivre un petit instant l'époque de Winaretta, de la vie et de l'œuvre bien sûr de la princesse de Polignac. Bien sûr, vous pouvez télécharger gratuitement cette émission sur canalacademy.com et nous nous retrouvons bientôt pour d'autres visites passionnantes. À très bientôt.